Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et Sosthène, notre frère. Et le titre de notre étude ce matin, c'est « Un guide pour la vie spirituelle ». C'est une description de toute l'épître. Et Dieu voulant, nous commençons une nouvelle série d'études dans cette épître merveilleuse de l'apôtre Paul. Elle est adressée aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, au sud de la Grèce, comme vous le savez, à 60 kilomètres à peu près à l'ouest d'Athènes. Un endroit qui était toujours plein de visiteurs à l'époque, avec des marchands, des gens qui venaient pour les affaires, et ceux qui venaient visiter les jeux grecs. Il y avait deux jeux grecs qui se passaient à Corinthe. Mais c'était une ville dépravée qui était connue dans l'Antiquité comme une ville charnelle. Ils étaient fiers de leur culture, de leurs philosophes, de leur soi-disant sagesse. Ils étaient fiers de leur tradition oratoire. Et Paul a fondé cette église pendant son deuxième voyage missionnaire. Et nous voyons ceci dans Actes 18, et c'était en 49 après Jésus-Christ. Des Grecs, des Romains, des Juifs, tous vivaient à Corinthe. Il y avait à peu près 90 000 personnes dans la ville de Corinthe au temps de l'apôtre Paul. Cette ville faisait partie de la province romaine d'Achaïe, et Paul est resté 18 mois. Il a prêché sur une colline à de grandes foules, nous pensons. Il a écrit cette lettre d'Éphèse. Si c'est écrit à la fin de l'épître en tout petit dans votre Bible, autre chose, ceci ne fait pas partie de la parole de Dieu inspirée. C'est surprenant que la version King James inclue ceci parce que personne n'est d'accord avec ses commentaires. Ne faites pas attention à ces petits caractères à la fin de l'épître, ces choses qui ont été ajoutées par les catholiques et qui ne sont pas justes. Mais c'est évident, Paul dit qu'il écrit d'Éphèse. Il a probablement dicté cette lettre et il a probablement écrit le premier verset par sa propre main. Et c'est pour cela que Sosthène est mentionné. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et Sosthène, notre frère. Très probablement, c'était la personne qui était le gouverneur de la synagogue d'Éphèse. Et qui s'est opposé à l'évangile, mais ensuite est venu à Christ, et à présent il est avec Paul dans leur voyage vers Éphèse. Et il est mentionné ici non pas parce qu'il est prédicateur ou qu'il fait partie des apôtres, mais parce qu'il a écrit cette lettre, dictée par l'apôtre Paul, probablement. Simplement en arrière-plan. Mon premier point est le suivant, et nous allons considérer ces versets qui commencent cette lettre, Dieu voulant, jusqu'au verset 8 et 9 ce matin. C'est un début d'épître qui est très précieux pour nous. Et nous allons passer de verset en verset. Premier point, qui enseigne dans l'Église de Christ? Qui enseigne? Regardez le verset 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ. Il ne s'est pas appelé lui-même ou mis en avant lui-même. Il a été appelé à cela. Et d'une manière très spectaculaire. Et ceci est rapporté ailleurs. Dieu l'a converti et a fait de lui un apôtre. Et lui a dit dès le début que non seulement il allait prêcher l'évangile aux non-juifs, mais qu'il allait également souffrir terriblement la persécution en même temps. Et l'apôtre Paul a été poussé à obéir, il a été mis en place et appelé par Dieu. Bien sûr, un apôtre était une personne toute particulière et unique. Ce terme est utilisé de manière générale dans le Nouveau Testament, mais quand ce terme se réfère aux 12 ou aux 11, plus l'apôtre Paul, qui était l'apôtre, qui est comme un avorton qui a été rajouté après, qui ne faisait pas partie des disciples d'origine, mais qui a été appelé après. Quand ce terme « apôtre » est utilisé pour ces gens-là, cela se réfère à un messager tout particulier, c'est-à-dire une personne envoyée de Dieu, quelqu'un qui est envoyé. Et les apôtres d'origine ont été envoyés par Dieu. La plupart d'entre eux étaient inspirés. Ils parlaient de la parole de Dieu avec autorité. où ils ont écrit la parole de Dieu, où ils ont confirmé l'Écriture. Appelés par la volonté de Dieu à être apôtres, ils ont été authentifiés par des signes et des miracles qu'ils pouvaient opérer, de manière à ce que les autres savaient qu'ils étaient les apôtres. Ils faisaient partie de la fondation de l'Église, puis ils sont décédés. Oui, bien sûr, parce que, au temps des apôtres, les Écritures ont été complètes, entièrement écrites. À présent, nous avons tout ce qu'ils étaient inspirés à écrire. Et nous avons la parole de Dieu inspirée, écrite. C'est là notre autorité pour toute chose. Ainsi, il n'y a plus d'apôtres. Paul ne s'est pas mis en avant lui-même, mais il a été appelé par la volonté de Dieu. Et de même, pour les pasteurs qui ne sont pas inspirés, depuis les apôtres, les pasteurs, les enseignants, les prédicateurs sont appelés par Dieu. Ils doivent être appelés. Dieu doit mettre un grand fardeau dans leur cœur. Mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent être appelés. Et leur appel doit également être authentifié par l'Église, par les enfants de Dieu. Il doit y avoir cet appel intérieur et cet appel extérieur de l'Église. Et toute la base de leur appel, c'est qu'ils seront fidèles et ils vont enseigner uniquement la parole de Dieu. Vous voyez beaucoup d'enseignants de nos jours, par exemple dans le mouvement charismatique, ils inventent des choses. Sur le chemin, ils innovent terriblement. Et constamment, ils inventent de nouvelles choses, de nouveaux enseignements que personne n'a jamais entendus auparavant. Non, ils ne peuvent pas être appelés par Dieu, parce que le pasteur fidèle est appelé à prêcher uniquement la parole, et à expliquer la parole, et à mettre en pratique la parole, et à l'appliquer. Ainsi, qui enseigne? Dans le cas de l'apôtre Paul, il faisait partie de cette classe particulière d'apôtres. Mais après cela, Dieu appelle des prédicateurs, des pasteurs, mais ils doivent être authentifiés, envoyés par l'Église. L'Église doit être d'accord. L'Église doit voir qu'ils sont mis à part par Dieu et doit confirmer ceci. Et ils enseignent uniquement la parole. Ce premier verset nous dit ceci. Qui enseigne? Non pas tout le monde, enseignant ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment raconter, mais uniquement ceux qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu. Et j'en arrive à un deuxième point en verset 2. Et c'est là la définition d'une église. Ce verset est très riche ici. Comment est-ce que vous définissez une église? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est un verset si important et si riche. La définition classique d'une église qui a été donnée par les réformateurs, c'est qu'elle est composée de personnes qui professent Christ. Et parmi ces personnes, la parole de Dieu est prêchée. Et on honore également la Sainte Cène et le baptême. Et la discipline est exercée. Ainsi, il y a ces différentes choses qui sont importantes. L'Église est définie comme un ensemble de personnes, une assemblée de personnes qui professent Christ, qui prêchent la parole et qui gardent, qui partagent la Sainte Cène et le baptême et qui exercent la discipline. Ceci est juste, mais ce n'est pas suffisant. Il peut y avoir toutes ces choses en place et il peut y avoir des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui peuvent être des chrétiens de nom, qui croient dans leur tête, en gros, les doctrines de la Bible, mais ils ne sont jamais venus personnellement à Christ, ils n'ont pas été sauvés. Quand nous voyons la définition de Paul ici, elle rajoute quelque chose d'essentiel à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Avant de vous donner la définition, soulignez que Corinthe est l'Église de Dieu. Attends un peu, Paul. Est-ce que ce n'est pas l'Église de Grèce, comme nous dirions ici l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane? Et Corinthe est simplement une branche de cette église nationale? Paul, pourquoi est-ce que tu écris à Corinthe comme si elle était elle-même une église à part entière, complète, en elle-même, indépendante? Mais c'est bien là ce qu'il fait à l'église de Dieu qui est à Corinthe. La Bible, le Nouveau Testament, ne parle pas de l'église anglicane ou de l'église d'ici et de là, de l'église d'une nation. Tout ce que la parole de Dieu reconnaît, c'est une assemblée. Chaque assemblée en elle-même est une église indépendante, à part entière dans la Bible, et nous ne connaissons rien d'autre. Chaque congrégation, aux yeux de Dieu, est une église autonome, qui rend directement compte à Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À présent, nous en arrivons à la définition. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Et rendus saints, sanctifiés. Quelque chose a été fait en eux. Par Dieu, ils ont été transformés. Ces gens ne sont plus les gens qu'ils étaient auparavant. Ils étaient auparavant mondains, ils vivaient pour ce monde. Ils n'avaient aucun intérêt en Dieu. À présent, ils ont été transformés, sanctifiés, rendus saints aux yeux de Dieu et mis à part du monde. Ce ne sont pas des gens qui sont mondains. Ils ne vont plus dans les danses du monde, ils ne dansent pas sur la musique du monde, ils ne sont pas intéressés par les amusements, les divertissements du monde. Ils ont de nouveaux goûts, des goûts spirituels, et ils sont différents. La définition d'une église authentique, elle est composée de personnes qui sont sanctifiées en Jésus-Christ, qui sont appelées à être saints. Ce terme est une traduction du grec « invité ». Ils ont été invités à être saints. Ils ont entendu une voix, non pas une voix littérale. Ceci peut être mieux traduit comme « commandé par Dieu ». Parce que c'est l'appel de Dieu plein de bonté qui nous amène à lui. Il y a cette chose qui nous attire à lui. Et cet appel vient quand nous sommes convaincus de péché personnellement, que nous réalisons que nous avons besoin d'un sauveur et que nous devons venir à Christ pour être purifiés. Et nous entendons la voix de Christ qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Chargés par le fardeau, par le péché, c'est là l'appel. Qui sont appelés à être saints, mis à part, c'est le même terme que sanctifié presque, mis à part pour Christ. Ainsi, ces gens sont transformés et ils sont appelés et amenés à Dieu. À tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a trois choses ici, trois aspects. Ils sont transformés, ils sont appelés et amenés à Christ. Et ils prient, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Autant que nous le savons dans l'Écriture, peut-être que ce n'est pas le cas, mais autant que le récit de l'Écriture nous le dit, la première fois que l'apôtre Paul a entendu l'Évangile, c'est quand il s'appelait encore Saul et qu'il était présent quand Étienne est mort martyr. Il l'a entendu prêcher, mais il n'était pas d'accord du tout. Il était furieux en entendant sa prédication. Et quand Étienne a prouvé que Jésus-Christ était le Messie, qu'il était Dieu, qu'il était divin, qu'il a souffert, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il était à présent au ciel, à la droite de Dieu. Mais quand Étienne a fini ses paroles, qu'ils l'ont exécuté, qu'ils l'ont mis à mort, il a crié à Dieu, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Et il a invoqué le nom du Seigneur. Et ceci était probablement la première fois que Paul, qui s'appelait à ce moment-là Saul, a entendu quelqu'un qui invoque le Seigneur. C'est là ce que nous faisons. Nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions principalement le Père dans le nom du Fils. Et ceci, c'est invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous confions en lui et nous passons par lui. Souvent dans nos prières en privé, nous prions directement à Jésus-Christ. Et le Père entend également. Nous invoquons le nom du Seigneur. L'apôtre Paul, quand il était encore Saul de Tarse, il n'avait jamais réellement prié à ce moment-là. C'était quelque chose d'automatique pour lui, dans la synagogue, dans le temple. Et il ne connaissait pas Dieu, c'était quelque chose d'automatique. Et à présent, il entend Étienne qui invoque le Seigneur comme s'il connaissait le Seigneur. Et son visage était comme celui d'un ange. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Et ceci a touché l'apôtre Paul dans sa conscience. Il était furieux à ce moment-là, mais ceci a dû lui parler. Parce qu'il a entendu Étienne qui connaissait Christ. Et c'est comme s'il le voyait dans la gloire et il a invoqué son nom. Ainsi, Paul... Ce terme est dans l'Ancien Testament. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là une définition de l'Église. Ceux qui ont été transformés, ceux qui ont eu cet appel personnel à venir à Dieu, ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils le connaissent. Est-ce là votre expérience, chers amis? C'est là la définition d'une Église et d'un chrétien. Et j'en arrive à un troisième point. Et je dois être rapide au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce est la paix. La grâce, c'est la faveur de Dieu qui n'est pas méritée. La base même de la bénédiction, c'est la faveur de Dieu que l'on ne mérite pas. Qu'est-ce qui a fait de nous des chrétiens? Qu'est-ce qui nous a amenés à Christ? Est-ce que c'était notre bon sens? Non, nous lui avons résisté. Est-ce que c'était notre bon sens et nous nous sommes repentis, nous l'avons recherché? Non, c'était la faveur de Dieu qui nous a été donnée et nous ne méritons rien. Que la grâce et la paix vous soient données. La paix, c'est la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec lui et nous l'avons rencontré, nous le connaissons. Par le décret de Dieu, il y a eu un moment où il a décrété que cet homme, cette femme, est pardonné. Et je transforme cette personne, c'est une nouvelle personne, cette personne est à présent un citoyen du ciel, et je l'amène dans le royaume de Dieu, une déclaration de Dieu qui nous a justifiés et qui a fait de nous des personnes acceptées devant Dieu. Ceci a été fait par l'œuvre de Christ qui est venu du ciel, qui est allé à la croix du calvaire, qui a souffert, qui est mort pour porter la condamnation qui était la mienne à ma place, et la vôtre également, si vous le connaissez, pour que nous puissions être pardonnés et transformés. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, par son décret, et du Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre à la croix du calvaire. Ceci nous amène à un quatrième point. Et ceci sera sur deux ou trois versets, la base même de la bénédiction. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. La grâce à nouveau, la faveur de Dieu libre et qui n'est pas méritée. Ce que je voulais dire par rapport à ce verset, c'est ceci. Cette église de Corinthe était dans une certaine mesure désordonnée. Et alors que vous lisez l'épître, il y avait le désordre durant la Sainte Cène. Certains ne croyaient pas dans la résurrection. Et ceci n'a pas été discipliné. Ils étaient très attachés à leur culture grecque et ils aimaient les bonnes traditions oratoires et ils préféraient des prédicateurs qui parlaient bien plutôt que ceux qui fidèlement expliquaient la parole de Dieu. Ils ont également fermé les yeux à un péché grave dans l'Église et ils n'ont pas discipliné ces choses. Certains d'entre eux n'ont pas accepté que l'apôtre Paul était un apôtre et ils avaient également un esprit de division. Et l'apôtre Paul parle de ceci en premier. Ils avaient des divisions dans l'Église, des groupes qui s'attachaient à leur enseignant favori. Ainsi, il y avait ces fautes dans l'Église de Corinthe. Mais nous ne devons pas souligner et exagérer ces fautes pour en faire une mauvaise Église, parce que l'apôtre Paul les recommande profondément. Certains écrivains, certains prédicateurs disent que c'était une Église complètement charnelle et qu'elle n'était pas digne d'être appelée une église à cause de toutes ces choses. Mais quand nous voyons la force par laquelle l'apôtre Paul recommande cette église, nous réalisons que nous devons faire attention d'être équilibrés dans la manière de voir cette église. Toutes ces fautes dans l'église de Corinthe n'impliquaient pas la majorité de l'église. Quand vous prenez l'église dans sa totalité, c'était une église très honnête. Il y avait une grande faute, oui, ils ont permis à ce pécheur à Corinthe qui a péché terriblement de ne pas être discipliné et de rester dans l'église. Mais après, ils ont obéi à l'apôtre Paul et ils ont discipliné cet homme. Et ils ont demandé pardon. Mais ce n'est pas juste de penser qu'ils étaient tous ainsi. La plupart étaient honnêtes et sincères. Certains ne croyaient pas dans la résurrection, mais c'était une petite minorité et ils ont dû être corrigés. Et quand nous comprenons ceci, que nous voyons les choses de la bonne manière en étant équilibrés, nous disons, oh, c'est une épître pour nous. C'est une épître pour les églises authentiques. Peut-être que la majorité des personnes sont sincères et consacrées à Christ et fidèles. Mais il y a des fautes dans l'église. Et l'épître aux Corinthiens nous dit que vous devez toujours discipliner ces choses, réformer et avancer dans la vie chrétienne et faire face à ces fautes. Si nous pensons que l'église de Corinthe était terrible au-delà de ce que l'on peut décrire, alors cette épître ne nous parle pas réellement. Chaque fois que nous voyons une exhortation, nous le disons « Oh, c'était pour eux, c'est pas pour nous, parce que eux étaient si terribles. » Ainsi, ce n'est pas une aide pour nous que d'exagérer les fautes de l'église de Corinthe. Au verset 4, « Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. » C'était une église authentique et, dans son ensemble, une église sincère. Ceux qui exagèrent les erreurs de Corinthe pensent que Paul utilise de la flatterie pour introduire son épître. Mais l'apôtre Paul n'était pas ainsi. Il ne dit pas des choses qu'il ne pense pas profondément. Au verset 5, « De ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière. » L'influence de Christ était là dans toute l'Église, en toute parole. En d'autres termes, dans l'enseignement. Dans l'enseignement de la parole, la vérité est déclarée à Corinthe. Dans son ensemble, c'est une Église qui est fidèle au Seigneur. Et en toute connaissance, quelle est la différence entre la parole et la connaissance? La parole se réfère pleinement à ce qui était enseigné et la connaissance se réfère à ce que les auditeurs entendaient et comprenaient et retenaient. La parole était enseignée et les gens se souvenaient de leur doctrine et ils retenaient ces choses. Ils avaient une bonne connaissance des doctrines de Christ dans leur esprit. En toute parole et en toute connaissance, vous avez été enrichis en lui, en Christ, qui est la dernière personne mentionnée dans le verset précédent. Ainsi, c'est une bonne église, mais qui a ses problèmes. Au verset 6, « Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. » Ne lisez pas ce verset trop rapidement. Le témoignage, c'est la parole qui est donnée comme un témoignage dans une cour de justice, une déclaration, un témoignage. Le prédicateur témoigne de Christ, de sa souffrance, de sa mort à la croix du calvaire, de tout l'évangile et de la vérité de la Bible. Et le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Ce terme grec traduit par confirmé signifie établi, affirmé. Il y a une traduction qui dit que le témoignage de Christ a été fondé en vous. Mais vous ne pouvez pas dire ceci en anglais ou en français, mais c'est une bonne traduction. C'est là ce que ce terme grec original signifie. Établi, c'est bon. Mais c'est comme basé sur quelque chose. C'est là l'idée de ce terme, fondé sur quelque chose. Ce n'est pas simplement que vous avez entendu l'évangile, que vous étiez d'accord, mais quelque chose s'est passé et ceci est devenu le fondement de votre vie. Tout ce que vous pensez est basé sur ceci. Est-ce que ceci s'est passé dans votre vie? Est-ce que vous avez réellement expérimenté la conversion de manière à ce que Christ, à présent, est le fondement de toute chose, le but de votre vie, la destinée de votre vie, celui qui vous dirige, qui vous fortifie? Christ est tout pour vous dans votre vie. Il est votre fondement. Et tout ce que vous construisez dans la vie est fondé sur lui. C'est un verset riche. Selon que le témoignage de Christ a été confirmé ou fondé ou établi en vous. Verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Certaines personnes de nos jours immédiatement pensent au don des langues, du parler des langues, au don de la prophétie, au don de la révélation, etc. Ces choses sont incluses ici parce que l'église de Corinthe avait encore à ce moment-là des gens qui parlaient en langue. L'église avait des prophètes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'était pas encore complète. Ils vont recevoir un Corinthien juste à ce moment-là, et plus tard deux Corinthiens, et les autres épîtres, et les évangiles écrits. Qu'est-ce que les églises faisaient avant d'avoir le Nouveau Testament en entier? Dieu leur a donné des prophètes du Nouveau Testament, qui ne parlaient pas de l'avenir, certains parlaient de l'avenir, mais principalement, ils étaient inspirés, et ils enseignaient la doctrine authentique. Et alors que l'Écriture était écrite, et que l'Écriture était complète, nous n'avions plus besoin de prophètes, et il n'y en avait plus. Mais à ce moment-là, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, Dieu a donné à Corinthe le grand privilège d'avoir tous les dons de révélation, également le don des enseignants, des prédicateurs, et du berger. Il y avait des bergers dans le troupeau qui pouvaient aider les autres, exhorter les autres. Il n'y avait pas de don qu'il n'avait pas. Et il commence à dire à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. J'ai dit que toute église est complète et autonome, chaque assemblée. Et c'est le cas, chaque assemblée authentique. Dieu lui donnera tous les dons dont elle a besoin. Les soi-disant dons charismatiques n'existent plus. Ils sont passés, mais tout don est donné à chaque Église, toute capacité, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ils sont caractérisés par le fait qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais également une caractéristique de chaque Église authentique, c'est que ses membres ont les yeux fixés sur une grande chose, c'est la fin, la venue de Christ, ou la révélation, la manifestation de Christ pour nous en tant qu'individus si nous mourons avant son retour, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce terme traduit en grec par manifestation, c'est la révélation, la manifestation. Vous attendez la manifestation de Christ personnellement pour vous au moment même où vous allez dans l'éternité ou quand il revient pour amener la fin du monde et qu'il amène le jour du jugement et qu'il amène tous ses enfants avec lui pour être présent avec lui dans la gloire éternelle. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, c'est comme votre caractéristique principale à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les yeux fixés sur ce grand jour. Un chrétien n'est pas une personne qui construit le ciel sur cette terre, qui est fixée sur les choses matérielles. Non, mais le chrétien est fixé sur la valeur éternelle, sur les choses éternelles, célestes. Et au verset 8, « Il vous affermira aussi le même terme que celui qui est utilisé au verset 6, le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Il vous affermira, c'est ce même terme. Il vous établira aussi jusqu'à la fin. Si vous avez réellement trouvé le Seigneur et que vous êtes réellement converti, vous ne serez jamais perdu. La doctrine de la persévérance des saints. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il sera fidèle, il vous gardera, et si vous errez du chemin, il vous ramènera dans sa bonté, même s'il doit vous discipliner. D'une manière ou d'une autre, il va vous ramener à lui, à vous confier en lui. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr que je ne serai pas sans reproche, moi-même, que vous soyez irrépréhensibles. Comment puis-je être irréprochable, même en tant que chrétien, même si je fais de mon mieux? Je chute tant de fois, je trébuche et je suis si plein de péchés. Comment est-ce que je peux être irrépréhensible? Oui, je le serai, parce que je serai revêtu de la justice de Christ. Dieu me verra en Christ, parce que je suis venu à lui et sa justice m'est imputée. Je suis irrépréhensible au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai irrépréhensible. C'est là les bénédictions du chrétien, et j'en arrive au verset 9, avec un dernier point. Ceci parle de ce partenariat divin. Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. Quand vous avez été appelés, vous avez entendu la voix de Dieu. Comment est-ce que vous avez entendu sa voix? Vous l'avez entendu parce que vous avez été convaincu de péché. C'est lui qui a fait cette œuvre, c'était là son appel. Il vous a rendu conscient de votre besoin du salut, de votre besoin d'être pardonné, d'être purifié. Il vous a rendu conscient du fait que lui va répondre. Il a dit « Venez à moi » dans l'Écriture. Et c'est comme si vous aviez entendu cette voix qui vous parlait, vous avez entendu son appel. Mais ce n'était pas simplement un appel à être sauvé, ce n'était pas simplement un appel à être converti. Ce n'était pas simplement un appel à se repentir, à le trouver, à le connaître. C'était un appel, au verset 9, par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils, vous avez été appelé d'une manière ultime et suprême à connaître la communion avec son Fils. Ce terme traduit par communion ici signifie partenariat. C'est le même terme utilisé à la fin de 2 Corinthiens. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, la communion, le partenariat du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'apôtre Paul commence presque la première épître avec le même terme qu'il utilise pour la fin de 2 Corinthiens. Dieu est fidèle et il vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, ce partenariat avec son Fils. Le même terme est utilisé dans 1 Jean, dans le premier chapitre. Cette communion avec Christ, quand nous venons à Christ, nous nous donnons à lui. Nous lui donnons notre vie. Nous lui donnons notre fidélité, notre esprit, notre pensée. Et nous l'étudions. Nous lui donnons notre cœur, nos affections. Nous lui donnons notre volonté. Nous allons faire ce qu'il nous commande, ce qu'il nous demande de faire. Nous nous donnons à lui. Et en même temps, il se donne à nous. Nous recevons une mesure de l'énergie, de la vie de Dieu, comme cette étincelle divine qui est tout pour nous. Et ceci nous enrichit. Dieu nous donne de lui-même. Nous nous donnons à lui et il se donne à nous. Christ s'est donné pour nous à la croix du calvaire. C'était là le début de ceci, quand il est venu lui-même pour être notre représentant, notre rédempteur, notre bouc émissaire. Vous savez qu'il s'est donné à vous, parce qu'il y a une part de la vie de Dieu en vous. Et soudainement, vous réalisez que vous l'aimez, l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs. D'où est-ce que cet amour vient-il? Vous ne l'avez jamais aimé auparavant. C'est Dieu qui vous a donné une partie de lui-même, pour que vous puissiez aimer les choses spirituelles et aimer Christ et aimer le Père et aimer les enfants de Dieu qui sont également sauvés. Si vous avez cet amour en vous, alors il y a quelque chose de Dieu qui vous a été donné. Et si vous êtes une personne qui va vers les autres à présent, vous voulez faire le bien, vous voulez que d'autres viennent au Seigneur, entendre l'Évangile, si vous avez l'occasion, vous allez leur témoigner de Christ et vous avez cet amour pour ceux qui sont perdus, vous allez prier pour eux et vous n'êtes pas en souci par rapport à moi, ma richesse, mon confort, ma position dans la société. Non, vous êtes une personne qui se donne, qui pense aux autres, qui vient à la réunion de prière. D'où est-ce que ceci est-il venu? Vous avez été transformé, non plus une personne qui est intéressée par vous-même, mais une personne qui se donne. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vous a été donné. Quelque chose qui vient de Christ. Cette communion est mutuelle. C'est un partenariat. Je me donne à lui et il se donne à moi. D'où est-ce que vient votre amour de la vérité et votre passion pour étudier les choses de Dieu, pour apprendre plus? Dieu est fidèle. Par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous allons nous arrêter là ce matin, mais nous avons exploré un peu de la profondeur de cette introduction de cet épître de l'apôtre Paul. Qui enseigne? Comment est-ce que vous définissez une église? Quelle est la base de toutes nos bénédictions? Quelles sont ces bénédictions? Qu'est-ce que c'est que cette communion, ce partenariat divin? Qu'est-ce que cela signifie dans notre vie? C'est là l'introduction de cet épître. Nous avons un tel privilège, chers amis.